J'aimerais lire un texte en Marc, au chapitre 16. S'il y a un texte où je suis sûr que je suis dans les clous, c'est ce récit-là, parce que je sais qu'il s'est passé un dimanche. Et on est dimanche, aujourd'hui, on peut lire ce texte, même si bien sûr il est le lendemain de la résurrection. Et c'est un texte qui est beaucoup à nous apprendre. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme, assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Ils leur dirent, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. » Voici le lien où on l'avait mis, le lieu. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Semaine difficile pour les disciples. Il n'y a pas longtemps, dans le fêté Pâques, la passion de Christ. Mais cette semaine, juste avant la crucifixion de Jésus, était difficile pour les disciples. Elle a commencé d'abord, le meilleur de la semaine, c'est le repas avec Jésus. Et le maître a voulu les retrouver ensemble. Et lui, il savait que c'était la dernière fois qu'il les voyait. Mais eux, je ne sais pas, ils étaient conscients. Mais on dit toujours qu'un repas, c'est là où on en fait le meilleur rencontre, c'est là qu'on peut se connaître. Et Jésus, je pense, a eu du plaisir à les retrouver. Et pendant ce repas, Jésus leur dévoile peu à peu le scénario de la semaine, les heures à venir, et qui n'est pas dans la faveur des disciples. Il leur dévoile « L'un d'eux me trahira ce soir. Quant à toi, Pierre, tu me renieras. » Malgré ces reproches, ces faits qui n'ont pas à la gloire des disciples, Jésus va instituer à Sainte-Cène ce jour-là le partage du pain et du vin, représentant le sacrifice qu'il allait accomplir pour eux tous. Puis vient le combat de Jésus à Gethsémané, seul devant Dieu, qui lui demande s'il n'y a pas une autre possibilité de racheter l'humanité que passer par l'amour, s'il n'y a pas quelque chose d'autre qui serait suffisant. Cela, c'est la semaine. Puis vient l'arrestation de Jésus, la haine du Sanhédrin, la lâcheté de Pilate, puis l'horrible crucifixion, où les disciples assistent impuissants à la mort de leur maître, cloué sur une croix comme un criminel. Tout cela en une semaine. C'est alors que la frayeur s'empare de tous. Nous l'avons lu déjà, les gardes tremblèrent de peur quand le ciel est assombri, le voile s'est déchiré. Les femmes saisies de frayeur, dans le texte que nous avons lu, elles ne disent rien, elles s'enfuient. Les disciples se barricadent par peur des Juifs. Tout le monde a peur. On peut comprendre le désarroi des disciples. La fin d'un rêve. Ce matin de Pâques, deux disciples s'éloignent de Jérusalem pour se mettre en sécurité. Ils ont peur. Ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Et ils s'expriment ainsi. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais voilà, il est mort. Nous l'avons vu. Même si à l'aube de ce troisième jour, ce dimanche matin, premier jour de la semaine, il y a des indices qui font penser à un événement majeur. Qu'il n'était plus dans la tombe, que des femmes l'avaient vu. Mais le doute s'installe quand même. Parce que nous, on l'a vu mourir. On l'a vu saigner, percer. On l'a vu agonir. Alors, bien sûr, les bruits courent. Qu'en est-il? Alors, lisons-le dans Luc, au chapitre 24, versets 21-23.
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant.
Pourtant, le bruit a couru qu'il est vivant. Mais ce matin de Pâques, alors que ça aurait dû être le matin de la joie, la certitude que Christ était ressuscité, non. Dans Matthieu 28, quelques-uns eurent des doutes. Marc 16, comme nous l'avons lu, quand ils entendirent qu'il vivait, ils ne le crurent pas. Au Luc 24, il prit ses discours pour des rêveries et ne crurent pas ses femmes, dures quand même, alors que Jésus leur avait annoncé tout cela, c'était prévu. Comment n'ont-ils pas pu se réjouir ce jour-là que de se barricader et d'avoir peur? Gardons-nous de les juger, car nous avons le recul, mais au moment présent, nous aurions sans doute fait la même chose. Il dira aux disciples, ne fallait-il pas que ces choses arrivent? Que le Christ souffre? Qu'il ressuscite le troisième jour, comme il l'avait annoncé? Déjà en Luc 9, chapitre 9, il leur avait dit cela. Mais voilà, pour ajouter à la confusion, c'est que toutes les personnes qui ont rencontré Jésus ce matin, comme des femmes, après sa résurrection, même les disciples, aucun ne le reconnaissent. Ça, c'est pour ajouter au trouble. Comment se fait-il? Marc 16 nous dit qu'il apparut sous une autre forme. Marie l'a confondu avec le jardinier. Comment se est-ce possible? Et quand Jésus se présente devant les disciples, ils sont saisis de frayeur. Ils ne le reconnaissent pas alors. Jésus leur dit, mais c'est moi, touchez-moi. Mes mains, mes pieds, voyez, sont percés. C'est bien moi, n'ayez pas peur. Et la preuve que c'est moi, donnez-moi à manger. Et vous verrez que je peux manger. Alors ils vont lui donner du poisson et du miel et il va manger donc. Comment se fait-il qu'il est passé au travers de la porte? Porte fermée. Même si le corps ressuscité de Jésus était matériel et tangible, constitué de chair et d'os, Jésus a retrouvé son corps glorifié, qui ne pouvait plus mourir et qui pouvait passer au travers d'une porte fermée. Mais mettons-nous à la place des disciples. 3 jours avant, ils avaient vu son corps meurtri par la main de l'homme, plein de sang et agonisant sur une croix. Comment un homme atrocement torturé par l'homme, 3 jours auparavant, pouvait se tenir là devant eux, en pleine forme? C'est un miracle. Alors Jésus va alors leur enseigner que sa mort n'était pas un hasard, ni un désastre pour l'humanité, mais voulu par Dieu pour accomplir son plan rédempteur. Sans la mort et la résurrection de Jésus, nous ne serions pas là ce matin. Sans la mort et la résurrection de Jésus, il n'y aurait pas de pardon pour les péchés. S'il y a une étude biblique à laquelle j'aurais aimé assister, c'est bien celle-ci, où Jésus, avec les disciples d'Emmaüs, qui commence à leur expliquer tout ce qui le concernait dans les Écritures. Le tombeau vide est pour beaucoup une énigme. Et la résurrection, mise en doute, car elle dérange. On ose plutôt dire que c'est un mythe. En rendant le dernier soupir, Jésus a dit, tout est accompli. En le ressuscitant le troisième jour, c'est comme si Dieu a contresigné cette réalité, cette déclaration. Le péché est pardonné. La résurrection est la preuve que le sacrifice de Jésus était suffisant. Son œuvre de rédemption achevée. Désormais pour nous, la certitude du salut nous est assurée. Peut-être ce matin, il y en a qui n'ont pas cette certitude. Alors je vais vous donner la clé. Comment peut-on être sûr que Christ a payé pour moi et qu'il m'a acquis cette place? Alors il faut simplement se présenter devant Dieu, tel que nous sommes, avec l'ensemble de ce que la Bible dit, nomme le péché. aux imperfections, car nous sommes pécheurs de nature, il n'y a pas de solution, il n'y a pas d'échappatoire. La Bible nous condamne tous ont péché, mais gratuitement, pardonnés, justifiés par la mort de Christ. Ne dites pas comme cette femme que je vais rendre service au village et qui me dit « J'ai ma conscience pour moi, je n'ai rien à me reprocher. » Alors que cette femme, tellement dure dans son tempérament, est coupée de sa famille parce qu'elle est intransigeante et parce qu'elle a du mal de pardonner des injustices à son âme. Sa fille est morte du cancer sans qu'elle puisse la revoir et ne puisse se réconcilier avec elle. Et pourtant, elle ose me dire « J'ai ma conscience pour moi, je n'ai rien à me reprocher. » La Bible affirme que si vous mettez sous la protection de Jésus, c'est le non-lieu. Mais c'est ça qui est fabuleux. Aussi mauvais que nous pouvons être, aussi intraitable, un caractère impossible, couvert par le sang de Christ, c'est le non-lieu. Ce qui veut dire comme si nous n'avions jamais péché. C'est fabuleux cette nouvelle. Et quand on apprend cela, on ne peut que se réjouir que Christ est ressuscité pour nous justifier devant Dieu. On raconte l'histoire d'un juge qui, lors d'une séance de tribunal, se voit face à sa fille qui avait commis un délit. Que fait-il ? Qu'allait-il faire ? La condamner alors que sa fille, ou devait lui pardonner ? Que va-t-il faire ? Devant tout le monde, devait-il juger sa fille ? Alors ce juge n'a pas pu faire autrement que de condamner sa fille devant tout le monde, mais ensuite s'est présenté devant le juge d'application des peines, il a enlevé sa robe d'avocat, de juge, et il a dit « Maintenant, je vais payer, je vais prendre la place, je vais purger la condamnation de ma fille à sa place. » Ce que ce juge a fait, Dieu l'a fait, par amour. C'est son amour envers nous qui l'a poussé à payer, parce qu'il avait été tellement, il nous aime tellement qu'il aime bien ce contact avec nous, ce dialogue avec nous. Et il voulait retrouver cette sécurité, enlever toute cette noirceur du péché. Et Christ a payé le prix fort pour cela. Et parce que le rachat de notre âme lui a coûté si cher, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Et cela, c'est une sécurité, une certitude pour nous tous. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Pensez qu'il ait donné son Fils sur la croix, qu'il a accepté de le voir souffrir, de détourner ses regards tellement son corps était chargé de notre péché. C'est qu'il nous aime. Et ce qu'il veut maintenant, c'est que nous retrouvions une place privilégiée envers l'univers avec lui. Ce qui m'interpelle, c'est comment Jésus a accompagné les deux disciples d'Emmaüs. Il s'est approché d'eux discrètement, sans s'imposer. Il a marché avec eux. Il a essayé de les écouter, de savoir comprendre leur désarroi. Et quand ils sont perplexes parce qu'il y avait des bruits qui courent, que Jésus est ressuscité, mais ils ne le reconnaissent pas. Et ils partagent avec eux. Mais c'est quand Jésus, les disciples lui ont dit, mais reste avec nous. Ils sentaient que c'était quelqu'un qu'ils connaissaient, mais ils ne pouvaient pas savoir qu'est-ce qui le rapprochait. Et quand Jésus a rompu le pain, qu'ils reconnurent ses gestes familiers, ces gestes d'amour auxquels je les ai habitués. Pendant plusieurs années, il a vécu avec eux, il a cheminé avec eux. Ils ont entendu ses prédications, témoins de ses miracles. Il guérissait le jour du sabbat, ce qui a provoqué bien sûr la controverse des pharisiens. Il se laissait approcher par les lépreux. Il accueille un centenier romain, ennemi du peuple, exauce une païenne, se laisse inviter par les mal-aimés. Et pourtant, il est là, cheminé avec eux. Et ils le reconnaissent par ses gestes d'amour. Mais la rencontre avec Jésus, glorifié alors, bouleverse aussitôt. Aussitôt, ses disciples qui étaient pressés de se mettre à l'abri parce que le soir tombait, ils font demi-tour pour retrouver leurs collègues à Jérusalem en criant « Le Seigneur est vraiment ressuscité. » Ils l'ont vu dans toute sa gloire. N'est-ce pas cela, la conversion ? Faire demi-tour au péché ? Tourner le dos à ce qui est mal ? Comme pour les disciples, Jésus va nous rejoindre.
Il veut vous rejoindre là où vous êtes. Il veut faire route avec vous. Il veut nous rejoindre dans nos détresses, dans nos souffrances, dans nos deuils, dans nos maladies. Faire route avec vous quand vous avez envie de baisser les bras, las de lutter. À quoi bon ? Quand je suis las de faire des efforts, las de me battre avec mon caractère qui fait tant de mal. À la croix, Christ a manifesté la puissance du pardon. Et il veut vous rejoindre, marcher avec vos côtés, comme souvent incognito, comme avec des disciples. Peut-être parce qu'il aura demandé à un frère ou une sœur de vous accompagner. C'est cela aussi, le secours que Jésus envoie pour ses disciples, pour nous tous ce matin. Cette certitude de nous accompagner et de nous rejoindre. Comme cet enfant dont l'histoire nous a raconté, hein, qui voulait marcher seul. Mais dès que le danger est là, on commence à s'inquiéter. Souvent, on sait que Dieu est là, on sait qu'il existe. Mais quand tout va bien, on n'en a pas besoin. Mais c'est comme l'homme commence à trébucher quand on est au chômage, quand on n'a pas de boulot, quand on a la maladie est là, quand le deuil est là, on se souvient, on en dit, ah ben Dieu est là. Et on l'appelle et puis parfois on se dit, mais il ne répond pas. Mais pourquoi il ne répond pas? Dieu n'est pas un joker pour venir quand ça ne va pas. Il a besoin de nous entendre dire, pardonne-moi Seigneur parce que j'ai fauté. Je n'ai pas marché avec toi. Purifie mon cœur, j'ai envie de revenir vers toi. Alors Jésus peut répondre à votre prière, mais pas avant. Notre foi et notre espérance sont basées sur des faits historiques. Ce matin de Pâques doit résonner comme une bonne nouvelle. C'est la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine et vous êtes encore dans vos péchés. Et si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Je ne sais pas si cela vous est arrivé, mais lorsque l'on passe par le deuil ou par l'épreuve, on se dit, mais comment font les non-chrétiens? Pas d'espérance, pas de quoi s'accrocher aux promesses de Dieu qui a promis que malgré les difficultés, il est là, il veut marcher à nos côtés, nous rejoindre dans notre détresse, nous accompagner et nous promettre sa bénédiction. Le chancelier allemand de Noël demanda un jour à Billy Graham, le grand évangéliste américain, « Croyez-vous à la résurrection de Christ ?» Surpris par cette question, Billy Graham, bien sûr, lui répond, « Bien sûr que j'y crois, j'en suis même convaincu. » Et le chancelier Adenauer de répondre, « En dehors de la résurrection de Jésus, je le cite, je ne vois pas d'autre espoir pour notre pauvre monde. » Et cela, il y a des dizaines d'années qu'il l'a prononcé. Et c'est encore plus vrai maintenant. La préoccupation de Marie de Magdala ce matin-là était de trouver quelqu'un pour rouler la pierre qui fermait l'entrée du tombeau. Qui va nous rouler cette pierre? Elle venait embaumer le corps de Jésus. Mais le tombeau, cette grosse pierre qui est là, va-t-elle être roulée? Vous pouvez la mettre? Cette pierre serait-elle si lourde à déplacer? Mais la préoccupation de Marie ne tient pas. Quand ils arrivent, la pierre était déjà roulée. Plus d'obstacles pour rencontrer Jésus. Si nous venons à Jésus avec un esprit repentant, un désir de revenir, de faire demi-tour comme les disciples, alors tous ces obstacles vont être roulés parce que Christ l'aura fait. Christ l'a fait à la croix. Il a pris notre place, il a pris notre misère. Toutes ces saletés, ces pierres, ces cailloux qui nous empêchent de marcher sont déblayés. Christ a roulé la pierre lui-même. Il y a-t-il des obstacles qui vous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu? L'injustice et la souffrance, ce sont deux choses que l'homme avance pour garder ses distances avec Dieu. Si Dieu existait, cela n'arriverait pas. Mais oui, mais c'est que nous sommes dans un monde corrompu par le mal. Et c'est parce que Dieu a voulu. Dieu a voulu l'éternité, une vie pleine avec lui. Mais à la chute, tout cela a été brisé. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. La mort, la souffrance, ce n'est pas ce que Dieu voulait. Mais par la désobéissance, nous sommes éloignés de Dieu. Et il a fallu tout ce cheminement pour retrouver ce dialogue, cette proximité avec Dieu, la mort de Jésus. Sans le nom de Christ, sans sa résurrection, pas de moyen possible de retrouver la présence et la sainteté de Dieu. Je peux vous assurer que, comme pour Marie, la pierre est déjà roulée. Plus d'obstacles qui nous priveraient de la présence de Dieu. Jésus, sur la croix, tout expié, et de son flanc percé, jaillit le sang qui purifie de tout péché celui qui croit. Puissions-nous retenir ces deux choses ce matin. L'intelligence et la raison sont impuissantes à nous faire comprendre les Écritures. Il nous faut une rencontre avec le ressuscité. L'avez-vous eu ? L'avez-vous rencontré personnellement ? Lui qui vous dit « Je vous aime » et « Nul ne vous ravira de ma main » comme cet enfant qui est venu tenir la main de son père, qu'il ne la voulait pas au début, on est comme ça. Mais la difficulté, elle a désiré la présence rassurante de son père. Christ est pareil, il est là, il attend que nous lui donnions la main. Prendre sur lui vos doutes, vos angoisses, vos inquiétudes quant aux promesses qui tardent à venir, un chômage qui vous pèse, les forces qui déclinent, Christ est là, tenir la main. Il nous dit ce matin, voyez mes mains qui ont été percées pour toi, qui ont guéri tant de malades, ces mains qui ne peuvent que bénir sont encore tendues vers toi ce matin pour vous bénir, vous soulager. Oui, il veut le faire ce matin car il est vraiment ressuscité. Prie. Seigneur Jésus, merci de ta présence ce matin car tu l'as promise. Merci pour ta parole. Merci de nous rappeler que tu es là. Et tes souffrances qui ont été si douloureuses pour toi et pour Dieu, c'était pour moi, pour nous tous. Et à cause de cela, maintenant, nous sommes justifiés, gratuitement justifiés par le sang qui a coulé. Merci pour ce non-lieu que tu nous accordes ce matin. Ô, sois béni, Père, pour cela. Que nous soyons tous rassurés et certains que ce que tu as accompli à la croix est encore faisable aujourd'hui, efficace, car tu nous aimes d'un amour éternel. Sois béni, Père, te remets toute cette assemblée, ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin. Veuille les bénir et les rassurer. Pose ta main bénissante sur eux, ceux qui passent par des moments difficiles, des moments de doute, d'angoisse, mais aussi ceux qui sont dans la joie. Te remercions parce que tu es fidèle et tu vas les bénir et les rejoindre là où ils sont. Visite notre cœur, que nos paroles, que nos actes témoignent que nous t'aimons et que nous voulons. Réclamons pour nous ta bénédiction pour la semaine. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen.